dommage qu'on n'ait pas pu écouter toutes les histoires ayant l'ouvrage.
On a zappé les filles Binet, les filles Lombroso.
Il y a vraiment de quoi faire, si je puis dire, et en même temps, l'histoire des sciences de l'homme actuelle, est-ce que tu es envisageable à cet ouvrage? Est-ce que vous avez pensé tout ou vous vous arrêtez à ce... Vous avez en fait cerné tout le sujet,
on l'a pas cerné vraiment, y compris d'ailleurs d'un point de vue chronologique, parce que c'est vrai que dans les cas qu'on a cités, il n'y a qu'un seul cas qui concerne la psychanalyse, par exemple.
Oui, et l'homme en fait le plus.
C'est un cas un peu particulier. C'est le cas de la femme enfant qui a inspiré donc d'une jeune fille de Vienne, qui a inspiré à la fois Karl Kraus, Fritz Vittel et Freud pour construire le personnage de la femme enfant. Donc elle est donc à la fois un sujet et une actrice d'une histoire d'amour, d'ailleurs. Entre Vittel, c'est elle-même en particulier. Mais c'est vrai que une science humaine particulière comme la psychanalyse mériterait un sort à part, parce que il y a quand même eu des grandes figures très importantes, comme celle de Mélanie Klein, d'Anna Freud, en France de Sophie Morgenstern et plus tard de Françoise Dolto, qui interrogent justement le rapport entre ce dont parle la science et la manière dont les femmes l'investissent et s'en saisissent.
Est-ce que le caractère autobiographique serait particulièrement féminin? Je veux dire, en littérature. Est-ce que les femmes seraient plus portées à écrire des autobiographies que les hommes? Voilà ce que je vous demande. Ce que vous en pensez? S'il y aurait un caractère particulier dans la littérature?
J'ai l'impression que ça dépend des siècles, peut-être. Par exemple, au XIXe siècle, si je réfléchis, il y a une autobiographie extrêmement intéressante de George Sand, « Histoire de ma vie », mais quand même, les grands autobiographes sont plutôt des hommes, si on pense à Chateaubriand, et auparavant, bien entendu, au grand modèle qui est Rousseau. Mais si je le situe un peu au XIXe siècle, c'est autant que je me souvienne le fait que les confessions sont publiées début XIXe, les confessions de Rousseau. C'est-à-dire que c'est déjà un texte qui est écrit, bien entendu. Donc je crois que là, au XIXe siècle... c'est plutôt l'apanage des hommes. Alors il y a une chose qu'on retrouve au XIXe siècle, c'est les journaux des jeunes filles. C'est pas tout à fait la même chose que les autobiographies. Et là il y a le travail de Philippe Lejeune sur les recherches sur les journaux des demoiselles qui écrivent cette recension. Alors peut-être que, je ne sais pas maintenant, au XXe siècle, c'est un peu différent.
Si on prend le modèle de l'autobiographie dans la science, on est toujours un peu conduit à des comptages désolants. Bon, si je prends l'histoire des psychologues, par exemple, parce que je la connais un peu mieux que les autres, dans les années 50, il y a un premier ouvrage... sur l'anthologie des psychologues contemporains, et il y a deux femmes pour 40 hommes, donc ça fait pas beaucoup quand même. Et dans le Parot et Richel que j'ai cité, il y a deux femmes aussi pour une vingtaine d'hommes, donc évidemment le ratio est quand même assez faible. Mais là, il s'agit vraiment du modèle particulier de l'autobiographie visant à construire la mémoire d'une discipline. Je pense que, mais au XXe siècle, je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Il y a une manière féminine. Bon, moi, j'avais été vraiment totalement frappée par la différence qui pouvait exister. Mais en même temps, c'était aussi une différence de statut entre leurs deux autobiographies, puisqu'elle, elle a raconté une histoire d'une certaine manière, en ne cachant pas même des détails extrêmement intimes. Alors, ça pose évidemment la question toujours des limites et de l'intérêt du dévoilement. Hein. Jusqu'où on va et quel intérêt ça a. Hein.
Pensez-vous vraiment que Maria Montessori ait fait le choix de ne pas se marier? Elle a été abandonnée par son compagnon. Elle a dû élever seule cet enfant parce qu'il n'a pas assumé ses responsabilités.
Alors, je ne suis pas une montessorienne. J'ai repris le travail de Valeria Balbini pour le présenter, mais j'ignorais ça, absolument.
Ah oui. Elle a été abandonnée par son compagnon quand elle a été enceinte. Mm-hmm. Donc, je ne pense pas qu'elle ait fait un choix.
Oui, elle a subi.
Elle a assumé.
Par contre, le choix de dire que c'était son neveu, c'est quand même elle qui l'a
oui.
fait. Mais enfin bon, elle a fait ce qu'elle a pu.
Elle a fait ce qu'elle a pu.
Dans
ce contexte-là, c'était très difficile.
Pas facile du tout, oui, en effet.
Oui, oui.
Merci.
Alors moi, en fait, j'aimerais bien avoir votre avis personnel sur la place des femmes en sciences aujourd'hui. Parce que vous nous avez parlé d'avant, et j'aimerais bien avoir votre avis sur aujourd'hui. Voilà.
C'est une bonne question.
Oui, peut-être. Non, mais je crois que c'est une vraie question, c'est-à-dire que on se rend compte que, alors peut-être pour essayer de répondre sur les sciences. Alors, nous, on a parlé essentiellement des sciences de l'homme dans notre travail. Mais si on prenait simplement, par exemple, prenons le CNRS, on s'apercevrait que en sciences au CNRS. Notamment dans les instances dirigeantes du CNRS, il y a très peu de femmes et beaucoup plus d'hommes, par exemple. Hein. Donc il y a toujours effectivement une différence. Hein. De même dans l'université, c'est-à-dire que effectivement dans l'université, on a par exemple ce que je connais mieux, c'est-à-dire les facs de lettres et sciences humaines, hein, alors je vous réponds pas tout à fait sur les sciences, mais quand même on s'aperçoit souvent que effectivement il y a beaucoup de femmes qui sont maîtres de conférences et un peu moins, par exemple, ou moins quand les femmes deviennent de professeurs, qui est l'échelon au-dessus. Donc on voit là qu'il y a aussi des différences. Et c'est vrai que on n'en a pas forcément conscience, mais moi j'ai assez souvent le souvenir d'avoir été dans des jurys de thèse où je me disais, mais je suis la seule femme dans ce jury. Voilà, hein, donc ça veut dire que on est peu nombreuses, un peu moins en tous les cas. Je sais, et je pense aussi qu'évidemment, alors il y avait une question qui se pose peut-être encore maintenant, qui est la question de l'orientation des filles. C'est la question qu'elle posait Bianca Zazo notamment, hein, voilà.
Mais qui peut-être d'ailleurs paradoxalement pourrait un petit peu se renverser.
Oui, oui.
Par rapport dans la situation actuelle, par rapport au domaine des sciences, non pas des sciences humaines mais des sciences entre guillemets dures, mais je sais pas, du fait de la désaffection globale qui touche le domaine des sciences, il y a véritablement une politique d'impulsion en direction des filles pour qu'elle s'intéresse plus aux filières scientifiques et qu'elle cesse de grossir les rangs des filières littéraires et des sciences humaines. Mais ça, c'est nouveau. Excusez-nous, c'est un vrai festival.
Oui, oui, là.
Vous avez mentionné tout à l'heure le problème, j'ai noté son nom, Germaine Vez, qui était très mal payée, malgré ses compétences. Le problème est toujours actuel. Les femmes sont moins payées que les hommes. Comment définissez-vous justement ce problème aujourd'hui ?
Je voudrais quand même dire qu'on a, enfin, on est plutôt des historiennes, hein, et donc on n'est pas forcément tout à fait spécialiste, même si on a quelques idées par rapport à ça. Hein, donc on peut peut-être que, enfin, vous voyez, je.
Ben, j'ai dit la même chose que oui. Toi, hein, c'est que oui. On peut pas en dire beaucoup plus que le grand public cultivé là-dessus.
Oui. Pardon. Et en plus de ça, je pense en tous les cas que par rapport au domaine qu'on avait exploré, je parle des femmes cachées. Eh ben, quand on fait des recherches comme ça sur le, enfin moi je travaille plutôt sur le 19e siècle, et en fait on en découvre. On en découvre au fil des archives, découvrir une femme qui aurait pu ou a eu une œuvre, aurait pu avoir une œuvre, etc. Donc c'est vrai qu'on c'est aussi, et ça a un côté évidemment, ce que je voulais dire, c'est un peu ce qu'on avait fait, mais c'était un choix hein, qu'on avait fait, probablement, c'était d'essayer aussi de retrouver, des femmes cachées, et pas forcément des femmes qui nous auraient plu à nous en tant qu'historiennes, hein, c'est-à-dire, effectivement, par exemple, les filles Lombroso, les filles de Cesare Lombroso, qui était un criminologiste italien, elles ont soutenu, Gina a soutenu que les femmes étaient inférieures aux hommes. Mais en même temps, c'est intéressant de voir, d'étudier le cas de ces deux sœurs Lombroso, étudiées par notre collègue Jean-Christophe Coffin, vous voyez, où par exemple, on rencontre des femmes qui sont des pionnières, et quelquefois, on se dit, mon Dieu, j'aurais pas aimé la rencontrer à l'époque, certaines apparaissent comme très difficiles.
Il y en a une qu'on n'aime pas du tout.
Oui, il y en a une, c'est vrai qu'on s'est dit.
Elle s'appelle Josefa Ioteco, et elle est pédologue.
Ça, c'est nous deux, oui.
En Belgique.
C'est-à-dire, elle étudie les enfants, un pédologue.
Elle mesure les enfants, ce qu'elle fait vraiment. Mmh. En plus, personne qui nous a présenté a montré un film, elle est absolument terrifiante. Moi, je pense que les enfants ont peur. Ça, c'est
bon.
Et par contre, c'est une femme de pouvoir. Mmh. C'est-à-dire que
oui, donc il faut pas.
Pas du tout autant qu'on puisse le connaître ébloui par son œuvre, mais elle y arrive. Mmh.
Donc, vous voyez, on a essayé en quelque sorte de tirer des fils, et parce que le risque un petit peu dans ce genre de travail serait de ne pas voir la diversité des positions de ces femmes, hein, et de valoriser peut-être de façon anachronique, disons, des femmes qui nous plaisent mieux, quoi, les premières les féministes du Second Empire qui disent qu'il faut faire une histoire des femmes, elles nous sont plus sympathiques que d'autres, bien sûr. Hein. Mais voilà, l'idée, c'était d'ouvrir la panoplie. Par exemple, il nous paraissait important d'aller voir du côté du catholicisme sur le 19e siècle, parce que il y a une contribution sur Lourdes, par exemple, et sur le rôle des femmes à Lourdes, et le rôle de ces miraculées de Lourdes, qui étaient généralement des femmes, et qui ont inspiré des savoirs qui ont été au centre de controverses. Alors, c'est pas forcément, effectivement. Vous voyez, on a essayé de et puis on peut tirer. Je crois que ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, on n'est pas, on rencontre quelquefois un certain nombre de cas, et c'est un peu comme cela qu'on a travaillé, et bien sûr en activant donc un réseau qui était de chercheuses à la fois françaises, mais aussi italiennes, allemandes, etc. Et de chercheurs, absolument. Ça, c'était tout à fait important pour nous. Ouais. Oui, oui.
Et en fait, il y a un domaine aussi dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'on n'a pas évoqué, qui est le domaine de l'action sociale et du travail social.
Oui.
Et là encore, il y a par exemple un travail d'Antoine Savoie sur les premières enquêtrices sociales qui montre comment toute une sociologie empirique des professions est partie de ce travail des premières enquêtrices sociales qui n'étaient pas reconnues finalement comme des professionnels et qui cependant ont fait beaucoup avancer la sociologie des professions.
Oui, parce que moi, ça me faisait pas ça. Oui, non, c'est un traquenard que vous nous avez envoyé.
Là, on va
montrer.
Oui, c'est toujours un peu intimidant de poser des questions comme ça.
Jacqueline, notre jeune ancien président. Jacqueline,
je voulais vous raconter quelque chose, et j'étais intéressé par ce que vous disiez, la présentation des hommes et des femmes. Nous, à Madès France, on a un bureau. On avait un bureau de...
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un point de vue professionnel.